vendredi 23 mars 2018 et voici au quotidien des quotidiens votre revue de presse avec vous pour les 90 prochaines minutes. François Brodeur en remplacement d'Hélène Denis. Le 23 mars, c'est une date qui a déjà servi, n'est-ce pas Mathieu?
Oui, effectivement, c'est bien dit. Et oui, oui. Il y en a déjà eu, il y en aura probablement fort d'autres, fort nombreusement. Hier, j'avais des problèmes avec mes liaisons. Aujourd'hui, j'ai un problème tout court avec mon français. Donc,
Il faut être fidèle, Mathieu.
Oui, je suis très régulier.
Donald Trump est dans le même cas, soit dit en passant, il a des problèmes avec ses liaisons.
Bonjour. Le 23 mars, nous sommes la journée mondiale de la météorologie. Eh oui. Et une autre bonne nouvelle, en 2007, la Cour suprême conclut que les wagons de Via Rail doivent pouvoir accueillir les voyageurs en fauteuil roulant. En 2002, ouverture à Londres d'une exposition de cadavres, Gunther von Hagens, anatomiste, expose ainsi ses modèles dans des postures diverses après les avoir plastinés. Donc on se rappelle que la plastination est une étape qui vise à remplacer l'eau et les graisses des tissus par du silicone, de l'époxy ou du polyester. Clou de l'exposition, un joueur courbé sur un échiquier, son crâne ouvert dévoilant son cerveau et un cavalier à cheval tenant un fouet dans une main, son cerveau dans l'autre. En 2001, la station orbitale Mir, arrivée en fin de vie, est désorbitée et se désintègre dans l'atmosphère au-dessus du Pacifique Sud entre l'Australie et le Chili. 1998, le drame maritime Titanic remporte 11 Oscars, égalant la marque établie par le Peplum Ben-Hur en 1959. Barney Clark, le premier homme à qui on a implanté un cœur artificiel, succombe à Salt Lake City après avoir survécu plus de 112 jours. En 1964, Ottawa accepte le principe de fluoration. De l'eau pour lutter contre la carie dentaire.
Et à cet égard, je prends la liberté de vous rappeler ce que Camille Sanson avait déclaré à l'Assemblée nationale à l'époque.
Rappelez-le-moi.
La fluoration de l'eau, Monsieur le Président, moi je viens de l'Abitibi, puis on n'a jamais pogné un brochet avec des caries, ça va juste être bon pour l'émail de mes toilettes. Et c'est texto ce qu'il a dit.
Eh bien... Oui, j'étais rendu en 1964, donc... non, ça, j'ai déjà dit. En 1911, la France compte 39 605 000 habitants, tandis qu'au Canada, nous étions 7 206 643. 1909, après la chute du gouvernement de Simon-Napoléon Parent, M. Gouin devient premier ministre du Québec. Il sera élu député dans une partielle un 10 avril. Et pour terminer, tiens, 1665, Jean Talon est nommé intendant en Nouvelle-France. Il débarquera à Québec le 12 septembre. Pour ce qui est des naissances du 23 mars, nous avons le cinéaste japonais Akira Kurosawa, qui est né en 1910. Le pionnier des fusées Werner von Braun, qui est né en 1912. Vangelis, le compositeur Vangelis Papathanasiou, en 1943. Et Bernadette Devlin, militante irlandaise des droits, en 1947. Et pour ce qui est des décès, j'en ai noté deux. En 23 mars, le décès de l'actrice anglo-américaine Elizabeth Taylor, qui est décédée en 2011, et l'écrivain Stendhal, né Henri Bayle, qui était né, lui, en 1783, nous a quittés un 23 mars 1842. Voilà, c'est tout.
Et sans plus attendre, on passe aux pages de la presse. Pages qui sont consacrées, comme toute cette émission d'ailleurs, beaucoup aux transports aujourd'hui. Les transports collectifs, les transports qui polluent, les transports qu'on devrait aussi savoir modérer. Et on commence immédiatement avec un texte de Bruno Bisson. REM, des ententes secrètes de monopoles territoriaux inquiètent. Les ententes secrètes d'exclusivité territoriale et de garantie de desserte par bus accordées au réseau express métropolitain inquiète des villes de banlieue et des usagers qui craignent d'être privés de toute solution de rechange au futur train électrique de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Ces ententes, dont l'existence a été révélée mercredi par la presse canadienne, lient pour les 99 prochaines années la société responsable de l'exploitation du REM et l'Autorité régionale de transport métropolitain, l'organisme public qui planifie et finance les services de transport en commun dans l'ensemble des municipalités de la grande région de Montréal. En vertu de cette entente, dont le texte n'a pas été rendu public, l'agence ne pourra plus offrir, l'autorité, pardon, ne pourra plus offrir de services d'autobus entre la rive sud et le centre-ville de Montréal en passant par le pont Champlain à partir du moment où le REM sera mis en service dans cet axe à compter de 2021. Actuellement, environ 25 000 personnes traversent le fleuve Saint-Laurent à chaque période de pointe, 50 000 personnes par jour, entre la rive sud et Montréal en utilisant les services d'autobus du réseau de transport de Longueuil et du réseau de transport métropolitain, qui offre ces services dans la couronne sud de la banlieue. Lorsque le REM sera mis en service, une majorité de ces usagers qui ont actuellement un accès direct au centre-ville seront obligés de faire une correspondance dans une station du REM avant d'entrer à Montréal. L'entente de non-concurrence convenue entre l'autorité et la société Projet REM, dont la Caisse de dépôt est l'unique actionnaire, interdit également à l'autorité de créer un service concurrent pour desservir l'aéroport international Trudeau à Dorval, où le REM aura aussi une station. Enfin, aucun service de transport express ne pourra être autorisé entre l'aéroport et le métro Lionel-Groulx dans le sud-ouest de Montréal. La Caisse de dépôt précise que cette clause de non-concurrence s'appliquera uniquement pour un service de bus express et que la mise en place d'un service local d'autobus avec arrêts multiples sera toujours possible entre cette station et l'aéroport. Les zones où il sera interdit de développer tout autre service de transport collectif en direction du centre-ville couvrent de larges territoires. Sur la rive sud, il s'étend du sud de la route 116 jusqu'aux limites du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la hauteur de Saint-Basile-le-Grand, en excluant la région du Roussillon, Candiac, Delson et Sainte-Catherine. En banlieue nord, l'interdiction de développer de nouveaux services en direction du centre-ville s'étend à l'ouest de l'autoroute 13, à Laval et dans les Basses-Laurentides, et à l'ouest de la route 148 jusqu'à Mirabel. Le centre-ville de Montréal, tel que défini dans l'entente, s'étend quant à lui de la Cité du Havre jusqu'à la rue Jean-Talon, entre le boulevard Saint-Laurent et le chemin de la Côte-des-Neiges. En entrevue à la presse jeudi, le porte-parole de la filiale de la Caisse de dépôt, CDPQ Infra, Jean-Vincent Lacroix, a précisé que l'interdiction de concurrencer le REM s'appliquera uniquement à des services allant d'une zone de non-concurrence en banlieue jusque dans la zone définie comme centre-ville. L'autorité ou les municipalités concernées conserveront tout le loisir de développer de nouveaux services de transport collectif à l'intérieur de l'un ou l'autre de ces territoires, à condition que ces services ne relient pas ces zones entre elles. L'entente conclue entre la Caisse de dépôt par l'entremise de la société Projet REM et l'autorité fait aussi obligation à cette dernière de garantir que les futures stations du REM bénéficieront d'un rabattement par autobus des sociétés de transport de Montréal, Laval, Longueuil et des couronnes de banlieue de la RTM. Cette desserte par autobus de la STM, de la STL, du RTL et du RTM devra de plus être suffisante pour répondre aux prévisions d'achalandage du réseau de la Caisse de dépôt. Le niveau de service offert aux stations du REM sera ajusté d'année en année en fonction de la clientèle utilisant le REM. L'obligation faite aux transporteurs de rabattre leurs autobus et leur clientèle vers le réseau de la Caisse de dépôt est mal accueillie par plusieurs milliers d'usagers actuels des transports collectifs, en particulier sur la rive sud. Elle force les utilisateurs à faire une correspondance pour accéder au centre-ville, alors que leurs services de bus actuels les amènent directement au cœur de Montréal sans escale. Le président de l'Association d'usagers des transports collectifs Trajectoire Québec, François Pépin, estime que ce malaise face au REM tient surtout au fait qu'il est impossible de savoir actuellement si cette correspondance forcée vers le centre-ville va allonger les temps de parcours des quelques 50 000 usagers quotidiens de la voie réservée aux autobus du pont Champlain. Et si vous avez l'impression qu'on privatise le système de transport en commun à Montréal, c'est en grande partie vrai. Rémunération des médecins. Quand on se compare, on se console qui a mené les médecins québécois à faire beaucoup plus d'argent. Eh bien, Francis Veil commente comment on fait la comparaison. Comparer la rémunération en secret. Maintenant que les pourparlers sur le passé sont terminés, s'engage une autre négociation cruciale, celle comparant la rémunération de nos médecins avec celle de leurs homologues canadiens. Et pourquoi je parle de négociation? Parce que selon l'entente signée la semaine dernière, les comparaisons ne seront pas faites de façon indépendante par l'Institut canadien d'information sur la santé, comme on pouvait s'y attendre. Ces comparaisons passeront plutôt par un processus pointilleux de discussion pour savoir ce qui sera comparé et comment. Et le plus curieux de l'affaire, c'est que le rapport sur cette comparaison restera secret si l'on se fie à l'entente. Les parties s'engagent à garder confidentiel le rapport de l'Institut, est-il écrit à la fin de l'annexe 1 de l'entente. Ce rapport sera remis aux parties en septembre 2019. Pardon? Après des années à débattre sur la question, les Québécois n'auront pas droit de savoir enfin si nos médecins sont mieux ou moins bien payés que leurs pairs canadiens selon une étude approfondie? N'est-ce pas de nature à empirer le climat de suspicion? Dès que j'ai vu cette clause jeudi dernier, je me suis empressé de questionner les deux camps pour comprendre l'incompréhensible. Au Conseil du Trésor, on m'a expliqué que les médias pourront tenter d'avoir une copie du rapport par la voie de la loi sur l'accès à l'information. Ah bon? Il faudra donc faire pile ou face pour espérer connaître l'issue de ce débat. Qu'en pense la Fédération des médecins spécialistes du Québec? Nous n'avons aucunement l'intention de ne pas partager l'entente, m'a répondu Sylvain Bellavance, directeur des affaires juridiques de la Fédération. Oui, mais vous vous êtes engagé, vous avez signé pour la confidentialité. On n'a pas l'intention de garder ça confidentiel, me dit-il. Mais qui donc a bien pu exiger une telle confidentialité? Réponse que m'a donnée le ministre de la Santé Gaétan Barrette, l'Ontario. L'Ontario? Eh bien oui. Pour faire la comparaison, il faut certaines données additionnelles de l'Ontario, notamment concernant la charge de travail, selon ce que m'explique le ministre. Et l'Ontario a accepté de fournir ces données à la condition que le rapport reste confidentiel, ce à quoi j'ai acquiescé, m'a dit M. Barrette. L'entente à ce sujet a été verbale et non manuscrite. Réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est un défi aussi pour le gouvernement du Québec, qui a probablement moins de latitude que les autres provinces canadiennes, puisqu'on en produisait déjà beaucoup moins. Martin Croteau titre son texte, oui, « Cibler la voiture pour réduire les gaz à effet de serre ». Ces efforts de réduction de gaz à effet de serre, les GES, ayant produit des résultats insuffisants, le Québec doit envisager des mesures plus sévères dont plusieurs ciblent l'automobile, indique un rapport que rendra public la ministre de l'Environnement, Isabelle Melançon, aujourd'hui. On y propose de taxer les grosses cylindrées et de construire moins d'infrastructures de transport en voiture. La ministre rendra public ce matin le rapport mi-parcours du plan d'action sur les changements climatiques pour la période 2013-2020. Québec y confirmera que l'ambitieuse stratégie présentée en 2012 n'a pas permis d'infléchir les émissions québécoises de manière substantielle. Derrière ce constat, le document se lit par moments comme un appel à l'action pour l'atteinte des objectifs climatiques. On y propose une batterie de mesures ciblant surtout les transports, mais aussi l'industrie, les bâtiments, l'agriculture et la gestion des déchets. Dans sa mouture initiale, le plan prévoyait plusieurs programmes financés avec le Fonds vert pour réduire les émissions des voitures et des camions. Ces mesures ont permis de maintenir et de bonifier les transports en commun, mais le parc automobile a continué de croître. Résultat, les émissions du secteur des transports ont crû de 20 % depuis 1990. Au niveau des secteurs autres que le transport, nous avons pratiquement atteint les objectifs fixés, a résumé une source gouvernementale. C'est très clair pour nous que nous devrons mettre toutes nos énergies sur les transports d'ici 2020. Malgré de généreuses subventions à l'achat, on ne comptait que 23 500 véhicules électriques au Québec en date du 28 février, révèle le document. Pour propulser cette filière, on recommande un appui financier considérable dépassant la capacité du Fonds vert. On évoque un système de redevance remise, bonus-malus, une mesure fiscale qui aurait pour effet de taxer les véhicules polluants et subventionner les véhicules à faible émission. Un tel programme a été implanté en France il y a 10 ans. Le rapport propose aussi des campagnes de promotion pour améliorer la perception à l'égard des voitures électriques.
Lorsqu'on fait quelque chose, il s'agit d'y rester et d'en sortir. Lorsqu'on fait quelque chose, il s'agit d'en sortir et d'y rester. Gilles, il est pas laid. Il a les cheveux mi-longs et il est plutôt jeune, ça se voit. Il aime pas les animaux, non. Mais il est tapis chez lui comme un chat, avec des livres, avec le souvenir d'avoir été ivre, mais pas que de joie. Ses yeux vitreux posent leurs doigts sur cette vie qui est devenue une vitrine juste comme ça. Il sort encore, se mélange toujours aux autres, même s'il gueule, même s'il insulte, ne vous y trompez pas. Il sait toujours reconnaître le beau dans le langage, surtout quand il déplie et redéploie de façon neuve ce qui a toujours été là. C'est vrai qu'il se pose et qu'il pose beaucoup de questions, Gilles. Il trouve que tout est bien, tant que ça fait pas de nous des lopes, c'est déjà ça. Lorsqu'on fait quelque chose, il s'agit d'y rester et d'en sortir. Lorsqu'on fait quelque chose, il s'agit d'en sortir et d'y rester. Gilles, il s'en tape d'être beau. Il se dit, le plus important, c'est de rester fidèle à soi et de surtout pas tout faire tourner autour de soi. Il aime comme un animal qui, dans un lieu qu'il ne connaîtrait pas, chercherait l'endroit où il se dirait, je suis chez moi, avec des livres, se souvenant avoir parlé dans une autre vie, le hollandais, et s'être appelé Spinoza. Ses yeux s'agrippent aux petites choses, celles qui permettent de comprendre que c'était peut-être pas tout à fait comme ça. Mais il a su rester un mec simple, un parmi tous les autres, parce que tendre au fraternel, cet esprit-là. Il le sait comme son pote Félix, comme son gars Michel, parce que pour lui, ce sont des types qui pensent droit. C'est vrai qu'il trouve cette époque naze, mais d'un autre côté, il se dit que ceux qui la vivent, ils s'en rendent pas vraiment compte, alors c'est peut-être pas si grave que ça. Lorsqu'on fait quelque chose, il s'agit d'y rester et d'en sortir. Lorsqu'on fait quelque chose, il s'agit d'en sortir et d'y rester. Gilles, il est élégant à sa manière. C'est pas une gravure de mode, non, c'est juste lui, quoi. Il l'aime comme une bête curieuse. C'est ce qui l'a poussé à acheter ce disque de rap, je crois. Avec des livres, parce qu'écrire, et les rappeurs écrivent, c'est se lancer dans une affaire universelle. Dit-il à haute voix. Ses yeux restèrent figés sur la pochette du CD. Il se gratta la tête et se dit, pourquoi pas. Mais au fait, saviez-vous qu'il habitait non loin de la rue Nollet, la rue où Verlaine vivait plein d'absinthe et de vodka. Il s'apprêtait à écouter un disque de rap classique au sens de consternant, égotripé, bourré de clichés victimaires de lieux communs et d'attitudes pseudo-gangsta, mais à ce moment-là de l'histoire, il ne le savait pas encore. C'est vrai qu'on a les poètes qu'on mérite, pensa-t-il. Mais après avoir écouté quand la platine s'arrêta, il éclata en sanglots. Lorsqu'on fait quelque chose, il s'agit d'y rester et d'en sortir. Lorsqu'on fait quelque chose, il s'agit d'en sortir et d'y rester. C'est mon chir au Maroc qui un jour me l'a dit.
Abdelmanik, c'était sa chanson Gilles.
Avant de passer au devoir, je voudrais faire écho à une nouvelle qui est parue également dans la presse sous la plume de Pierre-André Normandin. Nouvelle qui éventuellement pourrait devenir une bonne nouvelle pour les auditeurs de cette station, puisque les frais de stationnement illégal à Montréal vont augmenter, mais somptueusement. Pourquoi c'est quand même une bonne nouvelle pour nos auditeurs? Eh bien, sachez que la principale augmentation va viser les espaces réservés aux personnes handicapées, où l'amende, incluant les frais, va carrément passer de 149 à 300 $. Voilà. Donc, le devoir, et on commence tout de suite avec un texte de Marco Fortier, des appuis pour l'école de la dernière chance. L'école de la dernière chance, qui accueille les élèves les plus poqués du système, vient de franchir une autre étape en vue d'éviter sa fermeture appréhendée. Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, est prêt à investir 840 000 $ pour couvrir la mise de fonds en vue de l'acquisition d'un immeuble qui hébergerait l'école, a appris Le Devoir. Le Fonds de solidarité FTQ envisage aussi différents scénarios pour aider cette école hors de l'ordinaire à trouver un nouveau bâtiment à Montréal. Le ministère reconnaît la pertinence de votre mission particulière de rééducation sociale, affective et scolaire auprès d'élèves en grande difficulté, mission qui répond aux besoins de nombreux parents en commission scolaire de la région de Montréal, indique le ministre Sébastien Proulx dans une lettre transmise le 20 mars 2018 à la direction de l'école. Il s'agit d'une bonne nouvelle presque inespérée pour le Centre d'intégration scolaire. Cette école privée à but non lucratif de la 6e avenue dans le quartier Rosemont ouvre ses portes aux élèves de 8 à 18 ans qui ont les plus grandes difficultés de comportement. Ces enfants ont été expulsés de leur classe, de leur école et même de leur commission scolaire. Ils sont parfois même rejetés par leur famille. Plusieurs sont placés dans des familles d'accueil. Ces 75 élèves risquent maintenant d'être rejetés par la seule école qui leur offre une dernière chance, le Centre d'intégration scolaire, qui est logé dans un bâtiment appartenant à la Commission scolaire de Montréal et qui doit quitter cet immeuble au plus tard le 30 juin 2019. La CSDM a décidé de reprendre l'école pour loger ses élèves des classes ordinaires qui débordent dans le quartier. La directrice du CIS, Isabelle Chouinard, a bon espoir de trouver un nouveau local, surtout avec l'appui du ministre Proulx et de la FTQ. Elle a signé le mois dernier une offre en vue d'acquérir un ancien couvent situé rue Notre-Dame-Est dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Il reste à déterminer l'ampleur des travaux à faire pour transformer l'immeuble en école. « On doit quand même aménager un gymnase », explique-t-elle. L'offre d'achat est aussi conditionnelle à l'inspection du bâtiment construit en 1955. L'immeuble est offert au prix de 3,6 millions de dollars par un agent qui insiste sur la location du terrain en bordure du fleuve près du parc Bellerive. L'école compte aussi sur l'appui de principe du Fonds de solidarité FTQ pour se reloger, confirment nos sources. La mission du Centre d'intégration scolaire rejoint nos valeurs, dit Patrick McQuilkin, conseiller principal aux relations de presse et aux communications du Fonds de solidarité. Le fonds a mis de côté 400 millions de dollars pour financer des infrastructures à vocation socio-économique comme des écoles, des résidences pour étudiants, des bibliothèques et des complexes sportifs. Les projets seront développés en partenariat avec les villes, les commissions scolaires et les gouvernements selon le fonds. Fin d'un épisode de Peu de Glorieux pour la police de Montréal. Jeanne Corriveau signe un texte intitulé « Montréal a versé 75 000 $ aux citoyens malmenés par la policière Stéphanie Trudeau ». La Ville de Montréal a versé une compensation financière de 75 000 $ aux quatre citoyens malmenés lors d'une intervention musclée de l'ex-policière Stéphanie Trudeau le 2 octobre 2012 dans un appartement du plateau Mont-Royal. Madame Trudeau avait été reconnue coupable en février 2016 de voies de fait. Le juge Daniel Bédard avait estimé qu'elle avait eu recours à une force excessive et démesurée lors de cette opération qualifiée de brutale et motivée par la rage. Surnommée Matricule 728, Madame Trudeau avait été condamnée à une peine de 12 mois avec sursis assortie de 60 heures de travaux communautaires. Mais en 2013, les quatre citoyens concernés, soit Rudy Occhietti, Serge Lavoie, Simon Paget et Karen Molina, avaient intenté une poursuite civile réclamant des dommages compensatoires et punitifs de 395 000 $. Le procès devait avoir lieu en février 2018. Les défendeurs ont cependant offert de régler le dossier pour une somme de 75 000 $ en capital, intérêts et frais. La Ville a convenu de régler le dossier à l'amiable et les quatre citoyens se sont partagés le montant qui leur a été versé. Éditorial de Brian Miles, qui se penche lui aussi sur le transport collectif, mais cette fois sur les projets mis de l'avant par Jean-François Lisée. Le débat sur l'organisation des transports collectifs dans la région de Montréal prend une étrange direction avec l'apparition de projets à saveur électoraliste, le dernier en lice étant le grand déblocage du Parti québécois. Jean-François Lisée a frappé un grand coup trop tard avec ce grand déblocage, un assemblage de 21 projets de trains de banlieue, d'autobus et de tramway que le chef péquiste substituera au réseau express métropolitain s'il est élu. Première erreur. En opposant le REM au grand déblocage, M. Lisée a suscité un débat secondaire qui occulte les mérites de son propre projet. Le surplace métropolitain en matière d'investissement lourd en transport collectif exige de multiplier les projets durables au lieu de mettre les initiatives en concurrence les unes avec les autres pour marquer des points auprès des électeurs. Pourquoi M. Lisée a-t-il attendu si longtemps pour condamner le REM, alors que les travaux sont à la veille de commencer? A-t-il pensé aux conséquences d'une annulation si tardive des contrats? La Caisse de dépôt et placement du Québec, le promoteur du REM, a évalué les pénalités à 1 milliard de dollars. Même si le REM est imparfait, puisqu'il ne contribuera pas à l'accroissement du transport en commun dans la région de Montréal, le projet est trop avancé pour reculer. Le REM sera bénéfique, entre autres, pour desservir l'aéroport Montréal-Trudeau. Ce réseau pourrait même cohabiter avec le projet du PQ à condition d'en modifier la substance. Deuxième erreur. M. Lisée voit trop grand lorsqu'il suggère d'amener le train en gare jusqu'à Joliette, Saint-Hyacinthe et d'autres banlieues lointaines. Encore faudrait-il que le CN et le CP acceptent de partager et d'élargir leur emprise ferroviaire, ce qui est loin d'être gagné. Voilà donc pour le PQ une belle façon d'amadouer les électeurs du 450, mais il y a un risque que son projet contribue à l'étalement urbain, comme celui du REM d'ailleurs. Un recentrage est de mise. Les investissements en transport en commun ne doivent pas être planifiés au gré des humeurs politiques du moment. Une ligne rose pour Projet Montréal, un grand déblocage pour le PQ, un troisième lien pour la CAQ. L'Autorité régionale de transport métropolitain assumera-t-elle enfin le rôle qui lui a été confié? Il est plus urgent que jamais de dépolitiser, de planifier l'organisation des transports collectifs en fonction d'objectifs clairs, la mobilité, l'augmentation du transfert modal de l'automobile vers les transports collectifs, l'amélioration du bilan environnemental et la densification du territoire. Pour le moment, la RTM négocie pour confier au REM des zones de monopole sur les services existants. Ce détournement de sa mission augure bien mal pour l'avenir.
Ta faute, mais je veux que tu saches que ces temps-ci, je trouve qu'on en arrache. On rit plus de nos jokes de la même manière. J'ai l'impression que demain va ressembler ailleurs. Même si je pense encore à toi, si je te cherche du haut des toits. Même quand il pleuvra encore, je sauterai les craques du trottoir pour éviter le silence des troupeaux. Oh, 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 oh. Le silence des troupeaux. Oh, 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 oh. Quand il fera pas beau. Oh, 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 oh. Pour le silence des troupeaux. Sourire que d'habitude. Un matin, il est empreint de lassitude. On rit plus de nos jokes de la même manière. J'ai l'impression que demain va ressembler ailleurs. Même si je pense encore à toi, si je te retrouve dans d'autres draps. Et quand le soleil sera en retard, je sauterai les craques du trottoir pour éviter le silence des troupeaux. Oh, 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 oh. Le silence des troupeaux. Oh, 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 oh. Quand tu feras propos. Oh, 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 oh. Pour le silence des troupeaux. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Philippe Braque, le silence des troupeaux.
Et nous voici déjà à aborder le journal de Montréal avec une première nouvelle qui concerne Marie-Maude de Denis. Vous vous rappelez peut-être de l'émission Enquête où la journaliste Marie-Maude Denis faisait état de fraude impliquant Marc-Yvan Côté, en fait d'attribution de subventions frauduleuses. Marc-Yvan Côté est actuellement en procès avec Nathalie Normando devant les instances pénales. Et on veut savoir où la journaliste a pris son information. Est-ce qu'il s'agit d'une fuite orchestrée par la police? Si oui, est-ce que ça entache le procès? Toute la question était posée. Évidemment, comme toutes les journalistes, Marie-Maude Denis n'entendait pas divulguer ses sources. Un juge de la Cour supérieure a conclu qu'elle devait le faire. La journaliste Marie-Maude Denis sommée de révéler ses sources au procès Normando Côté. La Cour supérieure ordonne à la journaliste Marie-Maude Denis de dévoiler ses sources au procès de Marc-Yvan Côté et Nathalie Normando. La décision contestée sur le champ par Radio-Canada sera portée en appel et c'est le journaliste Jean-Luc Lavallée qui signe le texte. La décision du juge Jean-François Aymon est tombée en début d'après-midi jeudi. Le magistrat a accueilli partiellement la requête de Marc-Yvan Côté, un ex-ministre et ex-dirigeant chez Roche, accusé de fraude et corruption qui cherche à cerner le niveau d'implication de l'État dans les fuites d'éléments d'enquête de l'UPAC dans l'espoir de faire avorter son procès. Le journaliste de Cogeco et l'actualité Louis Lacroix, qui ignore l'identité du fameux Pierre ayant tenté de lui couler de l'information, n'aura finalement pas témoigné. Toutefois, la défense a obtenu l'autorisation de questionner Mme Denis sur ses sources à l'origine des reportages « Anguille sous roche et rature » présenté à l'émission Enquête en 2012 et 2015. L'avocat de Marc-Yvan Côté, maître Jacques Larochelle, estime que la réputation de son client a été injustement entachée par ces fuites qui l'ont privé d'obtenir un procès juste et équitable. Il souhaite donc interroger Mme Denis dans le cadre d'une requête pour en arrêt des procédures. La juge Aymon a conclu que l'identité des sources constitue un renseignement important à l'égard d'une question essentielle, un facteur évacué par le juge de première instance qui a commis une erreur de fait. Il note aussi que les journalistes et leurs sources ne bénéficient pas d'une immunité absolue malgré le renforcement de la loi qui les protège l'automne dernier. Les conditions du témoignage devraient être établies par la Cour du Québec afin de protéger l'identité de la ou des sources journalistiques de la mise en cause Marie-Maude Denis, précise-t-on dans le jugement. Maître Jacques Larochelle, l'avocat de M. Côté, avait déjà évoqué la possibilité d'un témoignage à huis clos. La journaliste visée et son employeur n'ont pas tardé à annoncer leur couleur sur les réseaux sociaux. La protection des sources journalistiques est aussi importante pour nous qu'avant ce jugement. Rassurée de savoir que mes patrons ont décidé de la porter en appel, a relayé Mme Denis sur Twitter moins de 2 heures après avoir pris connaissance de la décision. Ultimement, si elle devait épuiser tous ses recours judiciaires, la journaliste s'exposerait à une citation pour outrage au tribunal en refusant de répondre aux questions. En entrevue, Marie-Maude Denis se désole de l'interprétation des nouvelles dispositions législatives sur la protection des sources par le juge Aymon. C'est extrêmement décevant. Moi, je suis soulagé que Radio-Canada ait porté cette décision en appel. Les principes sont trop graves. Si ce jugement-là tient, les journalistes vont se retrouver dans une position extrêmement difficile pour faire leur travail, a-t-elle plaidé. La raison pour laquelle on tient à protéger nos sources, c'est pour informer le public. Si on n'a pas un minimum de protection, on ne sera pas capable de faire notre travail. J'espère que d'autres juges dans les paliers supérieurs vont avoir la même vision que le juge André Perrault en première instance, a-t-elle ajouté. Alors, les bonnes nouvelles, je serais tenté de mettre en parenthèse préélectorale, comment continuer à tomber? Le ministre François Blais dépose sa réforme du régime québécois d'assurance parentale, un texte de Marc-André Gagnon. En plus de permettre l'étalement sur 2 ans du congé parental et d'offrir 10 congés payés pour les imprévus avec un enfant, les parents adoptants et les mères vivant une grossesse multiple auront bientôt droit à 5 semaines de répit de plus. Il s'agit des principales modifications que le gouvernement Couillard souhaite apporter au régime québécois d'assurance parentale. Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, a déposé en Chambre le projet de loi qui fait suite au chantier amorcé l'automne dernier à la demande du premier ministre Philippe Couillard, qui s'est donné pour mission de donner plus de temps aux familles. Ce que l'on vous présente aujourd'hui, c'est une réforme assez importante du régime québécois d'assurance parentale. Le régime date d'il y a 2006, a souligné en point de presse le ministre Blais. L'ensemble des mesures devrait représenter un coût de 50 millions pour l'État québécois. Comme l'avait déjà annoncé le premier ministre, une fois le projet de loi sanctionné, il sera possible de prendre son congé parental sur 2 ans plutôt qu'un. Les parents auront aussi la possibilité de constituer une banque de 10 jours de congé qu'ils pourront utiliser, par exemple, lorsque leur enfant est malade. C'est, à mon avis, la principale, la plus importante innovation de cette réforme, a fait valoir M. Blais. Ces journées-là pourront être prises à partir de la naissance de l'enfant sur une période de 3 ans. Pour un parent dont la prestation moyenne est d'environ 100 $, cela représentera 1 000 $ de plus. Par souci d'équité, les parents adoptants seront désormais traités sur le même pied d'égalité que les parents qui ont des enfants naturels, a expliqué M. Blais. Les parents qui adoptent un enfant auront chacun droit à un congé exclusif de 5 semaines qui s'ajoutera aux 32 semaines de prestations d'adoption partageables prévues par le régime. Pour des raisons de santé, les mères qui vivent des grossesses multiples auront aussi droit à 5 semaines de plus à leur congé de maternité qui est actuellement de 18 semaines. Il y a de plus en plus de grossesses multiples au Québec, 1300 cette année. La grossesse est en général plus difficile et le postpartum aussi, a souligné M. Blais. Lui et son collègue Luc Fortin ont aussi profité de l'occasion pour s'attaquer à la coalition Avenir Québec. Ce qu'elles ont besoin, les familles du Québec, en 2018, c'est d'avoir plus de temps, a dit le ministre de la Famille, et non pas de travailler 60 heures par semaine, comme le suggère la coalition Avenir Québec. Il n'y a absolument rien de nataliste. Donc ça nous différencie de la CAQ, a ajouté M. Blais. Mathieu Payan du Journal de Montréal rapporte, et c'est le titre de son texte, que les faillites ont triplé depuis Uber. Les faillites de chauffeurs de taxi ont bondi au Québec depuis 2014, l'année où l'application Uber s'est implantée dans la province, selon des documents obtenus par le journal. Le nombre de faillites de propriétaires de taxi est passé de 9 de 2011 à 2014 à 27 de 2015 à 2017, si l'on en croit les chiffres du Bureau du surintendant des faillites du Canada. À quelques jours du dépôt du budget provincial, l'industrie du taxi espère fébrilement obtenir la garantie du gouvernement que la perte de revenus et la baisse de valeur des permis liés à la concurrence d'Uber seront compensées. Mais en dépit de 3 rencontres à Québec, aucune entente n'a été trouvée et le temps presse pour les chauffeurs. Les chiffres obtenus par le journal n'étonnent pas les 4 représentants de l'industrie auxquels nous avons parlé. On voit régulièrement des membres partager leur mise en faillite avec nous. C'est triste, mais c'est ce que l'on vit, affirme Kamal Sabah, vice-président du regroupement des propriétaires de taxis de Montréal, qui dit compter 2 500 membres, soit plus de la moitié des chauffeurs propriétaires montréalais. Ces chiffres pourraient même être plus élevés, selon lui, sans la résilience des chauffeurs qui s'accrochent à l'espoir de voir leurs pertes compensées et Uber disparaître au terme du projet pilote en octobre. Certains s'appuient sur les revenus de leur conjointe, d'autres gonflent leur carte de crédit, dit-il. Le gouvernement affirme de son côté ne pas connaître ces données que le journal lui a soumises. « Nous n'avons pas tenu compte des faillites durant les négociations parce que l'industrie du taxi ne nous a jamais demandé de nous pencher là-dessus », explique Audrey Cloutier, attachée de presse du ministre des Finances Carlos Leitao, responsable des négociations. « Mais nous sommes ouverts à ajouter cet élément en discussion », poursuit Mme Cloutier. En décembre dernier, le ministre des Transports, André Fortin, avait annoncé devant une centaine de chauffeurs qu'une solution à la demande de compensation des chauffeurs serait trouvée avant le dépôt du budget le 27 mars. À date, la position de Québec n'est toujours pas claire. Va-t-on être compensé? Si oui, combien? Et qu'arrive-t-il avec Uber? Demande Georges Tanous, vice-président du Comité provincial de concertation et de développement de l'industrie du taxi. Depuis 2014, il y a eu deux commissions parlementaires, une table de concertation, une table de modernisation et un comité de support à la modernisation. Ça n'en finit plus, ajoute-t-il. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui souffrent. Malgré tout, les représentants des chauffeurs veulent croire qu'une issue favorable est possible. Le gouvernement a agi par le passé pour préserver des emplois au Québec. Là, il y en a 21 000 en jeu, plaide M. Sabat.
Kingsbury, la chanson Chandail.
C'est maintenant le moment d'aborder la presse régionale et on commence avec ce qui pourrait être un beau problème, puisque au Saguenay, les entrepreneurs se plaignent qu'ils n'ont pas assez de main-d'œuvre pour investir, ce que rapporte Laura Lévesque dans Le Quotidien. La pénurie de main-d'œuvre freine la croissance économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est le cas dans les installations jeannoises de béton préfabriqué du lac. Le PDG de l'entreprise, Robert Bouchard, s'est vidé le cœur devant la foule de 350 personnes réunies au colloque Action économique à Alma. « On a investi 25 millions dans nos usines à l'extérieur, mais on a investi 0 $ ici. Pourquoi? Il n'y a pas de monde. » a lancé sans détour l'homme d'affaires dont l'entreprise possède des installations un peu partout dans le monde, notamment au Brésil et aux États-Unis. Ce dernier n'a pas mâché ses mots à l'endroit du gouvernement et du système québécois qui, à son avis, sont trop contraignants. « On a des besoins dans nos usines de Saint-Jean-sur-Richelieu et dans la région. Quand j'ai vu les Haïtiens arriver au stade olympique, vague de migrants de l'été dernier, j'ai dit aux ressources humaines d'aller en recruter. On avait besoin d'une trentaine de journaliers. » Mais non, ça ne marche pas comme ça, on nous a dit. On nous a parlé d'intégration, de problèmes de racisme au Québec. Il faut donc d'abord leur donner un chèque de bien-être et un sac de chips yum-yum. Ce n'est pas comme ça qu'on intègre les gens, c'est en les faisant travailler, a-t-il vigoureusement dénoncé au micro réservé au public. Robert Bouchard a aussi tenté de faire venir dans la région ses travailleurs brésiliens et ceux qui travaillent dans les installations aux États-Unis. Mais selon ses dires, il était difficile de les faire travailler rapidement au Québec. Je veux voir les politiciens plus souvent, pas quand il y a une élection, a aussi critiqué M. Bouchard. L'homme d'affaires a aussi reproché aux équipes politiques, dont celle de Justin Trudeau, d'approcher les entreprises pour faire des poignées de main au lieu de montrer un réel intérêt. Ne venez pas serrer des mains, sinon allez au Carrefour à Alma. Près de 350 intervenants, élus et entrepreneurs, ont assisté à la première édition du colloque Action économique qui se tenait jeudi à Alma. L'engouement envers l'événement, initié par le député péquiste Alexandre Cloutier, confirme la nécessité d'une deuxième édition qui s'annoncera plus régionale. Il a fallu arrêter les inscriptions. On aurait pu monter facilement à 500. Donc, on voit que ça répond à un besoin. Tout le monde partage le constat de la main-d'œuvre des défis démographiques, pointe Alexandre Cloutier. Et j'ai déjà demandé à Saguenay que l'an prochain, l'organisation soit conjointe. Il faut que Saguenay, Lac-Saint-Jean-Est et le Haut-du-Lac soient tous à la même table d'organisation. Cette année, c'est une initiative qui est partie d'Alma et Lac-Saint-Jean-Est, mais ça doit devenir une vraie initiative régionale. Ce dernier a profité du colloque pour rappeler ses propositions pour freiner la baisse démographique dans la région. La gratuité dans les universités en région, favoriser les immigrants qui choisissent les régions, bonifier les programmes de mobilité étudiante et protéger le budget de l'éducation au Québec font notamment partie des idées lancées par le député péquiste. Ce dernier l'a répété une fois de plus, la région a besoin de mesures fortes pour renverser la tendance. Invitée à l'événement, la ministre libérale Dominique Anglade n'a pas annoncé de nouvelles mesures pour aider les régions à faire face aux défis démographiques, mais la vice-première ministre s'est montrée ouverte aux solutions du député péquiste. Opinion personnelle, je vous le dis tout de suite, je suis un petit peu inquiet pour l'avenir de l'économie québécoise. Depuis à peu près un an, on a l'impression que ça repose sur le marché de la marijuana et les nouvelles cultures qui vont en profiter. Et depuis à peu près 3 semaines, on pense que ça repose sur les crypto-monnaies, les bitcoins et tutti quanti, c'est-à-dire toute cette génération de valeurs qui ne sont pas de l'argent, mais qui servent néanmoins à faire des transactions. À Sherbrooke, on annonçait cette semaine un investissement d'un quart de milliard de dollars pour une usine qui minerait donc de la crypto-monnaie en se servant notamment de l'électricité fournie par Hydro Sherbrooke, qui est la compagnie locale d'électricité. Dans le reste des cantons de l'Est, c'est moins bien reçu actuellement, au point que la Voix de l'Est nous parle d'un moratoire possible sur l'industrie. Mine de crypto-monnaie, brome Missisquoi sous moratoire, c'est Jean-François Guillet qui signe le texte. Alors que le marché de la crypto-monnaie explose à l'échelle planétaire, plusieurs entreprises spécialisées dans ce créneau tant volatile qu'énergivore souhaitent s'établir dans la région. C'est notamment le cas à Bromont qui a été approché par une douzaine de promoteurs d'ici en 2018 à Prix La Voix de l'Est. Étant donné les enjeux dans ce dossier, la MRC Brome-Missisquoi vient de décréter un moratoire sur cette industrie afin d'encadrer son implantation. Le téléphone du directeur général de la Société de développement économique de Bromont, Charles Lambert, ne dérougit pas. Les entrepreneurs évoluant dans le domaine de la monnaie virtuelle voient en Bromont un terrain fertile pour leurs affaires. Depuis le début de l'année, ça bouge beaucoup avec la crypto-monnaie. On a des gens d'un peu partout qui veulent s'établir ici. Le phénomène prend beaucoup d'ampleur. Le DG de la société attribue principalement cet intérêt aussi marqué que soudain au fait que Bromont a accès à de l'énergie verte à bon marché, découlant de l'implantation du nouveau poste d'Adamsville. La ville, la mise à niveau du réseau, permet à ce jour de dégager 36 MW pour desservir les futures entreprises du parc scientifique. Or, la consommation énergétique d'importants joueurs dans le domaine de la crypto-monnaie a de quoi laisser pantois. J'ai récemment eu une demande pour un gros centre de données pour le Bitcoin qui prendrait environ 30 MW. C'est inconcevable. Il faut gérer notre capacité électrique en fonction de projets intéressants en termes de retombées pour la municipalité et pour la région. Mais on ne veut pas se lier les mains, a illustré celui qui dirige le bras économique de Bromont. En fait, le forage de crypto-monnaies nécessite de puissants ordinateurs ultra spécialisés servant à confirmer des transactions à travers le globe. Les bâtiments qui abritent ces équipements informatiques doivent donc être très bien ventilés et maintenir une température constante, ce qui en fait une industrie très énergivore. De plus, aucune réglementation ne régit cette unité monétaire numérique qui fluctue au gré des marchés boursiers. Le cas de Bromont n'est pas unique dans la région. Devant l'accroissement exponentiel des demandes de promoteurs dans le monde de la monnaie virtuelle qui courtise les municipalités sur son territoire, la MRC Brome-Missisquoi a pris position. L'organisation a donc imposé par voie de résolution le 20 mars un moratoire sur l'implantation des centres de traitement de données. Ce type d'usage est nouveau et mal encadré par la réglementation d'urbanisme local et il représente plusieurs contraintes environnementales, notamment en matière de bruit, de vibration et de consommation d'électricité, mentionne l'extrait du procès-verbal. Un dossier que le directeur général de la MRC, Robert Desmarais, qualifie de très préoccupant. La région a une capacité électrique pour son développement. À eux seuls, les projets de Bitcoin pourraient prendre 100 % de cette capacité excédentaire, sans compter l'utilisation de locaux existants et la faible création d'emplois. On doit se faire une tête, alors on a décidé de geler toute délivrance de permis pour ce type de projet. Un nouveau règlement encadrant cette industrie dans la MRC Brome-Missisquoi devra être adopté avant la fin du moratoire en vigueur pour 90 jours. Notons que plusieurs entreprises de crypto-monnaie sont déjà enracinées dans la région, entre autres à Connellsville, Bedford, Farnham et Notre-Dame de Stanbridge. Et je vous rappelle que tout ce marché de la crypto-monnaie, c'est une spéculation, une valeur artificielle conçue par des ordinateurs et qui va enrichir certains pour finir par en appauvrir d'autres. À Ottawa, grosse nouvelle, les sénateurs sont enfin d'accord, en principe, avec le projet de légalisation de la marijuana. Et je vous parle des vrais sénateurs, là, pas ceux qui jouent au hockey. Le Sénat donne son accord pour le cannabis, que rapporte Mélanie Marquis dans la presse canadienne. Le Sénat a donné jeudi soir son accord de principe au projet de loi du gouvernement fédéral sur la légalisation du cannabis. Le projet de loi a été approuvé en deuxième lecture, 44 sénateurs l'ont appuyé tandis que 29 autres s'y sont opposés. Le vote est survenu quelques heures après que le premier ministre Justin Trudeau y fut allé d'une légère mise en garde aux membres de la Chambre haute. En point de presse à Sussex, au Nouveau-Brunswick, le premier ministre a affirmé que le rôle des sénateurs était de bonifier au besoin les mesures législatives adoptées par les élus de l'autre chambre. On s'attend à ce qu'un Sénat plus indépendant fasse son travail de regarder les projets de loi envoyés par la Chambre des communes, qu'ils évaluent l'impact positif sur les communautés, qu'ils fassent des améliorations s'il y a lieu, a-t-il soutenu. Il a tenu à rappeler que la mesure législative C-45 découlait d'une promesse contenue dans la plateforme que les Canadiens ont appuyée en octobre 2015. C'est très clair que ce projet de loi répond d'abord à une promesse électorale que nous avons faite très clairement pendant la campagne pour laquelle les Canadiens ont voté. Bon, ceci dit, vous vous demandez, mais quand allons-nous pouvoir consommer enfin notre marijuana? Bien, sachez que ça sera probablement pas possible avant août ou septembre, puisque les provinces, une fois la loi finalisée et enfin adoptée, vont devoir mettre en place leur propre régime réglementaire. Restez avec nous, on vous revient dans quelques instants pour les actualités culturelles.
Chanter ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace, dit. Comment peut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile, dans quel pays? Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Chant de liberté, d'écouter se lamenter, ma gueule dans la glace dit. Est-ce que je dois montrer les dents? Est-ce que je dois baisser les bras? Je ne sais plus, je ne sais pas.
Classique, Michel Fugain, comme un oiseau.
Difficile d'éviter le sujet parlant de culture, Céline Dion a dû annuler une série de concerts à Las Vegas puisqu'elle souffre d'otophonie, c'est-à-dire que ses trompes de Stache sont ouvertes, ce qui fait qu'en chantant, elle entend son cœur battre, sa propre respiration et ça la déconcentre évidemment. Pour nous en parler, Marc-André Lemieux a choisi d'aborder la question sous l'angle de vue d'une fan. 14 concerts annulés, les fans de Céline déçus et inquiets, c'est un texte du Journal de Montréal. Mathilde Prunier s'est mise à pleurer en apprenant que Céline Dion annulait ses concerts du prochain mois à Las Vegas en raison d'un trouble de santé. La jeune femme de Limoges, en France, avait acheté son billet d'avion pour assister au spectacle du 30 mars, date à laquelle la chanteuse célébrera son 50e anniversaire. J'espère qu'elle ira bien, car depuis quelque temps, ce n'est pas le cas. Mathilde n'est pas l'unique fan de Céline Dion dans cette situation. De nombreux fidèles s'étaient procurés des billets pour applaudir la star sur scène, lors d'un concert qui promettait d'être mémorable. Un trouble à l'oreille moyenne qu'elle traîne depuis plusieurs semaines est toutefois venu gâcher la fête. Vivant à Naples, en Italie, Susanna Castiello s'apprêtait à voir son idole de jeunesse pour une 5e fois en concert. Quand nous l'avons contactée, elle étudiait les options qui s'offraient à elle avec son mari qui avait fait la grande demande quelques années plus tôt sur « Pour que tu m'aimes encore ». « Je vais sans doute finir par aller à Las Vegas, étant donné que tout est réservé. C'est très décevant, mais bien évidemment, sa santé vient en premier. Je comprends totalement et je lui souhaite le meilleur pour traverser cette épreuve. » Même son cloche du côté de Brendan Mulroy, un New-Yorkais de 18 ans qui compte se reprendre en juin. « J'espère qu'elle retrouvera rapidement la forme. Je sais combien c'est difficile pour elle d'annuler des concerts. J'ai beaucoup d'empathie pour elle. » Sur Facebook et Twitter, la nouvelle a grandement fait réagir les fans de Céline Dion. La forte majorité exprimait un sentiment de tristesse, mais aussi d'inquiétude, car plusieurs représentations ont été torpillées au cours des derniers mois à cause des problèmes de santé de l'artiste. En novembre, c'était des spasmes au dos, puis en janvier, c'était une infection des cordes vocales. Ces annulations ont refroidi les ardeurs de quelques inconditionnels qui disent hésiter à planifier un voyage d'une telle ampleur, de peur que l'histoire se répète. D'après le communiqué émis par l'équipe de Céline Dion, les détenteurs de billets seront remboursés pour chacune des représentations annulées, mais les promoteurs ne sont pas responsables des frais d'hôtel, de déplacement ou autres dépenses liées à l'annulation des spectacles. Qui l'eût cru, il y a actuellement un boom dans la vente de musique aux États-Unis. États-Unis, les ventes de musique au plus haut depuis une décennie grâce au streaming, un texte de l'agence France-Presse. Les ventes de musique, toujours conduites par la locomotive du streaming, ont de nouveau grimpé l'année dernière pour porter le chiffre d'affaires de l'industrie musicale américaine à un niveau inédit depuis une dizaine d'années. L'Association de l'industrie du disque, la RIAA, a annoncé jeudi que le chiffre d'affaires de ce secteur avait bondi de 16,5% en 2017. C'est la première fois depuis 1999, l'aube de l'ère numérique, qu'une hausse se produit sur deux années d'affilée. Aux États-Unis, le plus gros marché au monde, les ventes de musique sous tous ses formats, physique, numérique, streaming, ont ainsi rapporté 8,7 milliards de dollars en 2017. Un tel chiffre n'avait pas été vu depuis 2008, même s'il est encore loin des standards d'avant la crise du disque. Encore une fois, cette hausse est largement imputable au streaming, toujours plus populaire auprès du grand public. Les abonnements aux plateformes comme Spotify, Apple Music ou Tidal ont augmenté de 56% pour arriver à un total de 35,3 millions d'usagers. Le secteur du téléchargement numérique, un temps présenté comme la solution à la crise du disque, continue, lui, son inéluctable chute, moins 25% pour les plateformes comme iTunes. Les ventes physiques sont également en baisse, à l'exception du vinyle, toujours aussi populaire chez les audiophiles, et en hausse de 10%. Le streaming, qui a fait grincer des dents les artistes à son apparition en raison des faibles revenus qu'il touchait, continue de redessiner le paysage de l'industrie. Depuis 2015, ce système d'écoute en ligne est la principale source de revenus du monde de la musique. Plus que n'importe quelle industrie créatrice, le secteur de la musique a réussi sa mue avant la transition vers le streaming, tout en continuant de construire des liens forts avec leur partenaire le plus important, les artistes, a écrit Carrie Sherman, le président de la RIAA, dans un communiqué. Cinéma. Maxime Demers se penche sur la relève chez les réalisateurs québécois et vous allez voir, la relève est prometteuse. C'est d'ailleurs le titre de son article. Un vent de jeunesse souffle sur le cinéma québécois en ce début d'année. Depuis janvier, pas moins de 7 premiers longs-métrages de jeunes cinéastes québécois se sont succédés sur les grands écrans de la province. Et ces premiers efforts, parmi lesquels on retrouve de petits bijoux de films, laissent entrevoir de belles choses pour l'avenir. Ils s'appellent Sophie Dupuis, Jeanne Leblanc, Pascal Plante et Guillaume Lambert, entre autres, et ils aspirent à devenir les prochains Xavier Dolan, Denis Villeneuve ou Philippe Falardeau. La relève du cinéma québécois est à l'honneur depuis le début de 2018 et le talent et la débrouillardise des jeunes cinéastes ne cessent de me surprendre. Pourquoi je parle de débrouillardise? Parce que la majorité de ces premiers longs-métrages ont été produits avec les moyens du bord. Prenons l'exemple du très beau « Les faux tatouages » de Pascal Plante, qui a pris l'affiche le mois dernier après avoir été présenté au prestigieux Festival de Berlin. Pascal a tourné ce charmant film romantique avec un petit budget de 250 000 $. Il a ensuite fait le montage du film lui-même sur son ordinateur. Également sortis au cours des dernières semaines, les films indépendants « Ailleurs » de Samuel Matteau, « All You Can Eat Bouddha » de Yann Lagarde, Isla Blanca de Jeanne Leblanc et les scènes fortuites de Guillaume Lambert ont aussi été tournées de façon artisanale avec des budgets dérisoires, mais dans aucun cas on ne sent un manque de moyens ou d'ambition. Dans cette vague de jeunes cinéastes québécois, Sophie Dupuis est la seule à avoir bénéficié d'un budget plus important, 1,5 million, pour son film « Chien de garde ». Et on peut dire qu'elle s'est très bien tirée d'affaire. Bien joué, très maîtrisé, ce drame social aux allures de polar est un des meilleurs films québécois à avoir pris l'affiche dans la dernière année. Ce qui m'a le plus surpris dans cette cuvée de premiers films, c'est de voir à quel point ils avaient chacun des tons et des styles différents. Les genres abordés vont de la comédie douce amère, les scènes fortuites, au drame intimiste, Isla Blanca, en passant par la satire sociale, All You Can Eat, Bouddha, et le film romantique, Les faux tatouages. Les sujets s'avèrent également très variés et éclatés. Alors que Chien de garde brosse le portrait d'une famille dysfonctionnelle dans le milieu criminel montréalais, All You Can Eat, Bouddha nous transporte dans un tout inclus des Caraïbes où un touriste à l'appétit démesuré exerce une fascination chez les autres clients de l'hôtel. Difficile d'imaginer des univers plus à l'opposé que ceux-ci. Ces jeunes cinéastes ont tous en commun le fait d'avoir fait leur classe dans le court-métrage avant de se lancer dans la réalisation d'un premier long. Je crois qu'on récolte en ce moment les bons coups du court-métrage. Il y a beaucoup de belles choses qui se font depuis quelques années dans le milieu du court-métrage québécois, me confiait Pascal Plante au moment de la sortie des faux tatouages. Pas de doute, la relève est bien assurée. Musique classique, Christophus nous fait part de ses commentaires sur les journées de Debussy. Lupo et la voûte étoilée, c'est le titre de son article. Deux concerts stratosphériques en moins d'une semaine. Voilà une chose très rare. Après la prestation du Quatuor de Jérusalem dimanche au Ladies Morning, le récital Debussy de Benedetto Lupo jeudi a été une expérience musicale, sensuelle et sonore tout à fait exceptionnelle. Sans vouloir me substituer au juré du prix Opus, si la Fondation Arte Musica ne se retrouve pas distinguée en février prochain pour ses journées Debussy, c'est à n'y rien comprendre. Après le superbe concert de Philippe Cassard et en attendant Jean et Flamme Bavouzet, Benedetto Lupo est allé mettre la barre à une hauteur où on ne l'attendait pas. Certes, il y avait chez Cassard des moments tout aussi magiques comme l'inoubliable transition entre la berceuse de Chopin et Reflet dans l'eau de Debussy sur le piano Érard, ou l'enchaînement Ce qu'a vu le vent d'ouest, l'île joyeuse sur Steinway. La différence avec Benedetto Lupo qui a opté pour le Steinway pendant tout le concert en le faisant sonner comme très peu de pianistes, Babayan ou Cassard justement, c'est que chez Lupo, tout était suprême alors que Cassard avait eu des hauts et quelques bas. À l'affinité de pianiste italien avec les idiomes de bussiste n'est évidemment pas nouvelle. Arturo Benedetti, Michelangeli et Dino Ciani furent de légendaires interprètes de Debussy. Benedetto Lupo est bien davantage leur digne successeur que Maurizio Pollini, qui vient de commettre un disque ni fait ni à faire du livre 2 des préludes chez Deutsche Grammophon. Si je fais référence à ce CD, commenté dans le D Magazine samedi dernier, c'est pour opposer la raideur métrique de Pollini à l'infinie souplesse, oui, de Lupo. Les deux maîtres mots de Debussy, de Lupo, sont mouvement et résonance. Le mouvement chez Debussy peut être une énigme a priori. Commencer lentement, dans un rythme nonchalamment gracieux, demande-t-il dans la soirée dans Grenade des estampes. Mais ce qui est plus clair, c'est la souplesse requise à l'intérieur du canevas. En moins de 10 mesures de cette même pièce, on lit tempo rubato, puis retenu, puis tempo 1, avec plus d'abandon. Benedetto Lupo recherche cet esprit à tout moment pour donner une respiration aux pièces. En rappel, Benedetto Lupo a joué la plus que lente. Le fait que l'art de ce magicien ne soit pas documenté et préservé au disque alors que des bimbos épiphénoménales médiocres occupent le devant de la scène médiatique et discographique est décidément l'un des plus grands scandales de la musique classique.
Manu Chao et Amadou et Marianne qui nous chantaient Sénégal Fast Food.
Et voici le moment venu pour mon segment préféré de l'émission, celui où l'on lit des nouvelles peut-être un peu plus anecdotiques. Et je commence tout de suite en vous parlant d'hébergement. La semaine dernière, on vous disait que la Malbaie, la région de Québec, était débordée par les invités du G7 qui va avoir lieu au mois de juin, au point où les policiers ont loué des campings, c'est tout dire. Eh bien, sachez qu'on a prévu de l'hébergement pour tous. La prison de Québec pourra loger des manifestants du G7, ce que rapporte Baptiste Ricard Châtelain. La prison de Québec appréhende un afflux de manifestants arrêtés durant le sommet du G7 qui aura lieu en juin à la Malbaie et dans la capitale. Tellement que des détenus devront être transférés vers plusieurs autres centres de détention pour libérer des cellules. Le bruit courait au palais de justice depuis quelques jours. Contacté par Le Soleil puis par d'autres médias, le ministère de la Sécurité publique a confirmé jeudi soir les racontages d'avocats et de juges. L'établissement carcéral ne sera pas totalement vidé, tel que l'évoquait la rumeur la plus survoltée, nous garantissent par écrit Louise Quintin et Olivier Quentin, les deux porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Mais plusieurs détenus et prévenus logeant hors Saint-Ville devront déménager à l'approche du sommet des 8 et 9 juin. Une partie des places disponibles à l'établissement de détention de Québec seront libérées en prévision du G7. Combien? Pour des raisons de sécurité, cette information ne peut être divulguée. On sait toutefois que les prisonniers du nord de la capitale seront assez nombreux à voyager pour que le ministère nous écrive au pluriel lorsque nous lui demandons la liste des destinations vacances de ses pensionnaires. Ils iront vers d'autres établissements de détention. En décortiquant d'autres réponses tout aussi laconiques, nous pouvons cependant déduire que l'opération aura une ampleur certaine. C'est qu'il y a déjà des dizaines de lits libres à Orsainville. Et voilà, c'est tout à fait folklorique, les G7, les manifestants, la police, les prisons, tout ça, ça va ensemble. Allez, parlons de la famille royale et du trône, mais peut-être pas celui auquel vous faites référence normalement. Est-ce que le prince Charles se déplace avec son propre siège de toilette? C'est à la fois une question et le titre du texte de Philippe Melbourne Dufour. Au cours des années, plusieurs rumeurs ont couru au sujet de la famille royale britannique. Chaque fois, la royauté a même dû réagir à ces allégations. C'est maintenant au tour du prince Charles de rectifier le tir face à ses habitudes de bonne hygiène dans le domaine de la salle de bain. Selon Tom Bower, un journaliste d'enquête du Daily Mail, le prétendant au trône aurait eu quelques exigences bien spéciales lors d'un voyage pour visiter un ami au nord de l'Angleterre, comme celle de transporter son mobilier de chambre à coucher au grand complet, une radio, une bouteille de whisky, un rouleau de papier de toilette d'une marque spécifique, ainsi que son propre siège de toilette. « Sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul, dit-on. Peut-être, mais c'est quand même plus agréable quand on peut choisir son siège préféré. » Selon Bower, il ne s'agirait pas d'un incident isolé. Le prince de Galles serait reconnu pour ses demandes plutôt exigeantes. Si le prince doit se rendre à un événement, un policier se présente préalablement avec une flasque contenant un martini prémélangé, écrit Bower. Si le prince assiste à un repas, il se fait livrer sa propre nourriture. Ceci contraste avec sa mère qui a toujours eu l'habitude de manger ce qui lui était offert. Bien que l'idée d'un prince capricieux et snob concorde avec l'image que plusieurs se font de la famille royale, une autre auteure du même quotidien affirme que toutes ces allégations ne sont que des sornettes. L'histoire du siège de toilette suit le prince depuis plusieurs années. C'est faux, affirme la journaliste Rachel Johnson. Je me demande qui a vérifié. Selon elle, plusieurs essaient de faire passer le prince Charles pour un bébé gâté, alors que malgré le fait qu'il soit né dans une des familles les plus importantes du monde, Charles serait un gars bien terre à terre. Aura-t-on le match de boxe du siècle, peut-être même du millénaire? Donald Trump insulte Joe Biden en le disant faible mentalement et physiquement, un texte de Michael Labranche. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir le président et l'ex-vice-président des États-Unis se disputer pour savoir qui serait le gagnant d'une hypothétique bagarre. C'est arrivé en ce 22 mars 2018. Tout a commencé mardi par une allocution de Joe Biden à l'Université de Miami dans le cadre d'un rassemblement contre les agressions sexuelles. Biden a alors déclaré que si Donald Trump et lui étaient à l'école secondaire, il l'emmènerait dans le vestiaire et le tabasserait pour avoir tenu certains propos controversés sur les femmes. Il n'en fallait pas davantage pour que Trump se penche sur son clavier. Joe Biden, le fou, essaie de faire son dur. En réalité, il est faible mentalement et physiquement. Ça fait deux fois qu'il menace de m'attaquer physiquement. Il ne me connaît pas, mais il tomberait rapidement et durement en pleurant. « Ne fais pas de menaces aux gens, Joe », a-t-il écrit sur Twitter jeudi matin. Clairement, le président des États-Unis ne laissera personne lui mettre une raclée virtuellement. Eh bien voilà, ça élève le débat, c'est effrayant. Faux pas pour Lucie Charlebois, ministre responsable des saines habitudes de vie, qui a voté contre un de ses propres amendements. La scène a été filmée. Une ministre qui vote contre son propre amendement, un texte de Marie-Renée Grondin. Lucie Charlebois, ministre responsable du POT, en avait-elle consommé avant la commission parlementaire à ce sujet vendredi dernier? On est en droit de se le demander. Lors d'un appel nominal afin de se prononcer sur un amendement qu'elle avait elle-même proposé, la ministre Charlebois a voté contre. « Madame la ministre, c'est votre proposition d'amendement », lui a rappelé le président de la Commission de la Santé et des Services sociaux, Richard Merlini. « Oh, excusez, pour !» C'est tout de suite ravisé la ministre avant d'ajouter « Merci, Monsieur le Président, de me ramener sur la planète Terre ». Ce qui est encore plus comique, c'est qu'immédiatement après avoir voté contre sa propre proposition, la ministre avait rappelé à l'ordre le député de Dubuc, Ghislain Simard, qui était distrait. « Une chance que tu jasais, finalement », a-t-elle dit à son collègue. Où s'arrêtera la violence terroriste aux États-Unis, on se le demande. Un Floridien tente de tuer les poulets d'un autre homme avec une bombe artisanale. Un texte de Michael Labranche. Un Floridien a été arrêté mercredi dernier pour avoir tenté de faire exploser les poulets d'un autre homme. Scott Wegener, 55 ans, aurait fabriqué un engin explosif improvisé avec une bouteille de whisky, de la poudre à canon, du sable et des fusibles de canon, selon ce que rapporte le TC Palm. Wegener, surnommé Spider, aurait lancé la bombe dans le jardin de l'homme à la suite d'une dispute pour un pistolet à plomb volé. L'engin a explosé, mais il n'est pas dit si un poulet a été blessé dans toute cette histoire. On présume que non. C'est grâce à un appel anonyme que les policiers ont réussi à mettre le grappin sur Spider. Et voilà, c'est tout le temps dont nous disposions malheureusement. Lundi, la titulaire de ce micro reprendra l'antenne, heureusement aussi. Je remercie Mathieu Tessier qui a assuré la mise en onde et les choix musicaux. Je vous remercie d'avoir été là et je vous invite à rester en place puisque Kevin Breton viendra après la pause nous parler de sport.